Docteur Aulnay, bonjour.
Oui, bonjour, Madame Paquette.
Je vous cacherai rien, là, les prises de sang, en général, on n'aime pas ça. Ça implique des aiguilles, ça implique du sang, mais c'est un mal nécessaire. D'entrée de jeu, Docteur Aulnay, quand notre médecin nous prescrit des analyses sanguines, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Qu'est-ce que ça signifie?
Bon, ben le médecin va demander des analyses sanguines pour plusieurs différentes raisons. La plus grande raison, c'est pour le dépistage. On veut chercher ou identifier une pathologie qui pourrait être évidente à l'intérieur du prélèvement de sang, qui pourrait expliquer une symptomatologie vécue par le patient. Il y a certaines analyses qui, une fois qu'on a mis en vue une pathologie qu'on veut aller faire pour caractériser ce qui se passe, et puis finalement, il y a plusieurs analyses sanguines qui sont simplement pour faire un suivi face à des complications qu'on pourrait avoir avec un traitement ou avec une maladie qui peut évoluer de façon vraiment diverse. Et c'est une mesure de sécurité envers les patients.
Est-ce que seul le médecin peut prescrire une analyse sanguine ou en tant que patient, on peut dire « j'aimerais en avoir une » à notre médecin?
Non, les patients ne peuvent pas prescrire leurs propres analyses de sanguines. C'est sûr que leurs plaintes ou les problèmes de santé doivent être discutés avec le médecin qui, lui, va juger ou pas d'entreprendre une analyse sanguine. Puis évidemment, 95 à plus pour cent des analyses sanguines sont demandées par des médecins, mais les pharmaciens sont maintenant reconnus pour certaines pathologies. Ils peuvent demander certaines analyses dans le suivi de certaines maladies qui sont maintenant autorisées. On a aussi des infirmières qui peuvent soit répondre à des ordonnances collectives qui leur autorisent à faire certaines investigations ou suivis, ou encore des infirmières praticiennes qui ont un pouvoir de demander certaines analyses dans leur champ d'expertise.
Quel genre de symptômes peuvent mettre une puce à l'oreille à notre médecin?
Bien, évidemment, des symptômes de fatigue et de manque de bien-être global sont probablement une des motivations principales pour entreprendre des analyses. Évidemment, une perte de poids ou une douleur qui peut être caractéristique de certains éléments vont aussi provoquer des analyses. Évidemment, la majorité des analyses sont sanguines, mais évidemment, il y a d'autres analyses qui peuvent être apportées aussi.
Oui. Bien sûr, les plats révèlent certaines choses, mais ça ne révèle pas tout. Toutefois, il y a certaines maladies qu'on ne peut pas diagnostiquer suite à des prises de sang.
Effectivement, il y a très peu de maladies qu'on peut de façon absolument concrètement dépister dans le sang. On a évidemment des indices. Les analyses de sang ne remplacent pas une évaluation pathologique où on prend une biopsie pour faire une analyse de certains tissus. Mm-hmm. Évidemment, ce qui préoccupe beaucoup de monde, évidemment, c'est toujours le cancer qu'on pense que, oups, il y a peut-être quelque chose qui se passe. C'est heureusement un phénomène plus rare que d'autres maladies qui sont plus communes. Et c'est la minorité des analyses qui peuvent nous démontrer un cancer dans le sang. Ça dit, on a des analyses très sophistiquées, puis génétiques, par exemple, où on va chercher la biologie moléculaire de certaines gènes. Et avec l'identification de ces gènes-là, on peut identifier une prédisposition à certaines maladies ou, entre autres, des cancers. Ça commence à être dans les zones de possibilité, mais ce n'est jamais les premières analyses qui vont être faites. Généralement, ces analyses-là, plus poussées, vont être faites en deuxième instance, généralement sous la direction d'un spécialiste qui est plus familier avec l'utilisation de certaines de ces analyses. Vous savez, au CHUM, on a plus que 1000 analyses qu'on fait de façon communément, mais de ça, il y a probablement une demi-douzaine qui se démarquent comme étant les principaux analyses qui sont faites pour la population.
Et quelles sont-elles, ces principales analyses-là?
Le test numéro un, c'est la formule sanguine où on va dépister la quantité de globules, que ce soit blanc, rouge ou plaquettes, dans le sang. Ici au CHUM, on en fait à peu près 600 000 par année. Mais c'est sûr qu'on est une des plus gros centres au Québec. Il y a quelques autres qui vont avoir ce volume-là. C'est sûr que c'est une thèse de dépistage si on a une fatigue, si on a des infections, si on a des saignements. C'est tous des éléments que la formule sanguine nous aide à dépister. La deuxième test la plus fréquente que je dirais, c'est des analyses de biochimie où on va aller évaluer la fonction des organes vitaux, là, entre autres les reins, qui peuvent avoir beaucoup de pathologies qui se rendent tranquillement, qui vont pas nécessairement toujours être évidents, et suivi probablement des analyses du foie qui sont aussi assez bien dépistées par le sang.
Mm-hmm. Est-ce que les analyses sanguines peuvent servir à de la prévention? C'est-à-dire que si on est à risque de développer un diabète par nos antécédents familiaux, notre médecin pourrait dire, tu auras des analyses sanguines X fois par année pour qu'on puisse prévenir et surveiller peut-être l'apparition du diabète.
Non, c'est effectivement la deuxième instance, c'est plus pour surveiller, ça ne prévient pas malheureusement, les analyses sont faites vraiment plus pour dépister. Il y a des règles, des recommandations canadiennes qui sont adoptées par des savants qui se mettent ensemble pour réévaluer la littérature pour dire quelles analyses sont les plus utiles. Entre autres, on a les histoires qu'on entend avec les mammographies pour les femmes, mais il y a aussi des analyses dans le sang pour le cancer du prostate pour les hommes. On vient de passer le mois de novembre, qui sont des fois controverses et la littérature, comme vous savez, vos écouteurs sans doute savent, on a souvent une étude qui va nous dire que oui, puis une autre qui va contredire.
Ouais.
Et évidemment, de nuancer toutes ces recommandations, ça prend souvent des experts qui s'assoient ensemble pour vraiment regarder cette littérature à une rigueur plus profonde que le commun médecin va être capable même de faire pour aider à faire des recommandations sur ces dépistages-là.
Donc, la prise de sang, si j'entends bien, n'est pas toujours fiable. Parfois, il faut pousser un petit peu plus la recherche.
Mais en principe, c'est seulement les laboratoires agréés qui sont au Québec qui ont le droit de faire des analyses sanguines diagnostiques. La fiabilité, quand on parle de fiabilité, c'est est-ce que le test nous donne la bonne réponse? Et la réponse, c'est qu'au Québec, nos laboratoires ont des exigences très élevées et la réponse, c'est oui. Mais il faut s'assurer que l'échantillon respecte toute la chaîne. Alors, si on prend un échantillon de sang, on le laisse sur le comptoir pour 3 semaines avant de faire l'analyse, c'est certain que ça ne sera pas valide.
Ouais.
Alors, les analyses de sang sont très fiables, mais ils ne sont pas faits pour faire le diagnostic de certaines pathologies. Alors, donc, dans le sens, est-ce qu'on manque des maladies par des analyses de sang? Certainement, parce que le but, c'est pas nécessairement de faire... et les médecins reconnaissent les limitations de chaque analyse. On ne va pas diagnostiquer nécessairement un cancer avec une analyse sanguine. On peut manquer un cancer. Il faut vraiment faire l'écoute, l'examen et d'autres analyses, entre autres des imageries ou encore des biopsies pour confirmer certaines autres analyses.
C'est un outil parmi d'autres outils.
Tout à fait.
Oui, je le comprends mieux comme ça. Mais on sait que, par exemple, le diabète, la leucémie, les résultats peuvent être un petit peu plus probants. Ça se détecte mieux. Il y a certaines maladies qui vont être plus appropriées là, à faire, on va être plus apte à faire un diagnostic avec une prise de sang.
Absolument. La diabète, c'est un taux de sucre trop élevé dans le sang et nos analyses sont très, très fiables et performantes pour identifier ça. Et on sait, parce que presque toutes les familles québécoises ont connaissance de quelqu'un qui a une diabète et on voit bien qu'il y a des appareils mobiles qu'on peut tester des analyses de sang pour voir la glycémie un peu n'importe où.
Mm-hmm.
La leucémie aussi, c'est une maladie des globules blancs et par définition, c'est présent dans le sang. Donc, c'est une des cancers qui est l'exception que le sang est extrêmement performant en termes de dépister ça. On ne peut pas diagnostiquer une leucémie sans avoir une analyse de sang perturbée de façon significative.
Maintenant, docteur Honey, comment on se prépare à une prise de sang? Parce que parfois, les informations sont un petit peu opposées. On se dit « Ah, il faut être à jeun », d'autres nous disent « Non, c'est pas nécessaire ». Donc, comment on s'y prépare?
Alors, évidemment, il faut pas paniquer avec un prélèvement de sang. Moi, c'est pas une analyse avec les professionnels qui font les prélèvements. Il faut essayer de... C'est vraiment des professionnels. Ceux qui font les prélèvements, ça va être des technologues médicaux ou encore des infirmières qui sont formées à le faire. Et là, généralement, à moins qu'on ait des stagiaires, qui peut arriver, on a des experts qui font ça dans tous les hôpitaux au Québec. On se prépare surtout en étant prêt à montrer une veine qu'on peut aller chercher. Donc, d'avoir du linge trop serré, c'est évidemment moins optimal. En termes d'être à jeun ou pas, ça dépend qu'est-ce qu'on fait. Évidemment, toutes les analyses qui dépendent de l'alimentation, donc le cholestérol, les sucres, les taux de glycémie et certaines autres analyses, ça prend un jeûne de temps variable. Des fois, c'est 4 ou 6 heures, des fois, c'est 8 et des fois, c'est 12 heures de jeûne qui va être plus propice pour avoir une analyse exacte. C'est sûr que si on n'est pas à jeun, on va avoir une tendance quand même, puis il y a des limites pour les différents paramètres, qu'on soit à jeun ou pas. Normalement, une agence de collection de sang va vous indiquer des recommandations spécifiques. Pour la grande majorité des analyses, on n'a pas besoin d'être à jeun. Par contre, si votre médecin est en train de chercher une diabète ou un problème de cholestérol, c'est sûr que ces analyses-là, qui sont quand même des analyses relativement fréquentes, nécessitent un jeûne avant ces analyses-là. On peut souvent, sur les demandes de requêtes, il va souvent avoir des numéros de téléphone qu'on peut des fois appeler pour avoir un petit peu plus d'imprécision. Et on peut demander au personnel d'une clinique médicale. La grande majorité des infirmières peuvent répondre facilement si c'est un test qui nécessite un jeûne ou pas.
Et j'imagine que notre médecin peut aussi nous donner quelques informations, à savoir... Bon, qu'est-ce qu'ils cherchent et les précautions qu'on doit prendre avant notre prise de sang?
Absolument. Il y a très peu d'éléments qui nécessitent un régime très sévère, mais il y a quelques analyses qu'il faut éviter, la caféine et le chocolat.
L'alcool aussi.
Et de l'alcool. Ça dépend quelles analyses on cherche. Et évidemment, votre médecin est toujours bien placé pour vous aviser qu'est-ce que ça veut dire ces analyses, qu'est-ce qu'il recherche. Et s'il parle de diabète ou de cholestérol, un dépistage annuel. Généralement, dans les dépistages annuels, c'est souvent les contrôles de cholestérol et la recherche des glycémies. Donc, effectivement, pour ces analyses-là, on va souvent demander un jeûne. Un suivi d'une condition déjà établie peut souvent éviter ce jeûne-là parce que ce n'est pas les mêmes analyses nécessairement qu'on va chercher.
Maintenant, ça m'est déjà arrivé dans le passé, docteur Honey, d'avoir une prescription ou une recommandation de prise de sang par mon médecin, mais après de ne pas avoir d'aide pour l'interprétation de ces résultats-là, donc la lecture. Évidemment, il nous reste peu de temps, puis on ne veut pas que ça soit compliqué, on veut que ça soit accessible pour les gens qui nous écoutent, mais c'est quoi les grandes lignes? Qu'est-ce qu'il faudrait comprendre? Comment décortiquer ce relevé-là?
Donc, c'est sûr que si on reçoit une copie de l'analyse, il faut, dans tous les rapports qui sont émis dans les laboratoires que je connais, on met toujours des barèmes de normal. Il ne faut pas oublier que les barèmes de normal, par définition, on essaie d'établir une population normale. Il y a certains sous-groupes de la population, que ce soit une race différente, qui peuvent des fois avoir des variations attendues de cette sous-population-là. Et nos résultats sont vraiment adaptés pour une population québécoise normale. Par définition, à peu près 2,5% des patients vont être en haut ou en bas des valeurs normales qui sont là. C'est comme ça qu'on fixe les échelles pour la normalité. Alors, si on est proche de le niveau bas ou élevé, ça peut être un phénomène attendu statistiquement parlant. Si on voit une déviation très forte ou loin de les valeurs de référence, à ce moment-là, c'est peut-être un élément qui doit être recherché ou un défaut à corriger chez ce patient-là. C'est clair que le médecin va être capable de vous aviser de façon plus intelligemment parce qu'il y a certaines analyses qui ont une grande variabilité, puis il y en a d'autres qui n'ont pas. Et il y en a qui sont faussées justement si on va avoir mangé ou pas avant. Alors, on panique pas si notre glycémie ou le taux de sucre dans le sang est à 6,1 si on a eu notre jus puis on avait oublié de faire le jeûne complet.
Ben oui. Puis encore là, bon, j'imagine que si ces résultats ne sont pas dans les paramètres dits normaux, évidemment, à ce moment-là, notre médecin prendra contact avec nous. En terminant, Dr. Aulnay, pour ceux qui ont peur des aiguilles, qui ont peur du sang, est-ce que vous avez des petits trucs pour peut-être un petit peu mieux apprivoiser ce moment-là qui est jamais très, très agréable?
C'est sûr que d'amener un Walkman ou un radio puis un écouteur et de ne pas regarder, des fois, va faire l'affaire. Il y a du monde qui... il n'y a pas de miracle,
non,
mais c'est souvent le préleveur qui est capable de distraire, de parler avec votre technologue ou votre infirmière qui prend les prélèvements va souvent être suffisant pour vous distraire. Évidemment, on ne peut pas tout enlever la douleur. Et il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres.
On peut mettre une compresse d'eau froide, est-ce que c'est recommandé?
Le problème avec l'eau froide ou avant le prélèvement, c'est que la veine va peut-être être rétrécie dans ce contexte-là
et donc l'aiguille
rentrera moins bien. Mm-hmm. Ils auront plus de problèmes. Certainement après, si ça piquait, on peut faire ça. Et quand c'est extrêmement déplaisant, il y a une couple de choses qui sont possibles, mais c'est malheureusement pas de pratique courante chez les enfants. Il y a des appareils qui peuvent faire vibrer le pot, et puis donc stimulant les nerfs autour, il conduit moins la sensation de douleur. Avant. Donc, l'adulte, j'ai jamais fait l'essai.
Mais vous avez raison de dire que les technologues, les infirmières qui sont en place sont souvent très, très habituées à gérer des angoisses plus ou moins grandes et sont bien souvent très, très habiles pour les analyses sanguines et les prises de sang.
Il ne faut pas se gêner de demander de s'allonger un petit peu plus parce qu'on dit j'ai eu des problèmes avec ça. Puis des fois, juste de se détendre un petit peu plus et pas regarder fait toute la différence.
Ouais. Docteur Harold Aulnay, vous êtes hématologue et oncologue médical, chef du département d'hématologie médecine transfusionnelle du CHUM. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous parler.
Et avec vous, Madame Paquette.
Au revoir.
Bon après-midi.